Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless, je vais vous accompagner pendant cette heure d'émission en français. Au programme, un focus sur l'industrie touristique à l'agonie. Ce sera l'objet de notre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité économique australienne. On retrouvera aussi Jean-Noël Ducasse pour le magazine des sports. Et puis on va décrypter ce clip de prévention contre le Covid dévoilé ces derniers jours par le gouvernement australien. Et on vous expliquera pourquoi il était voué à l'échec. Mais tout de suite, place à l'actualité, c'est l'heure du journal. Les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 15 juillet 2021. Dans l'état du Victoria, le port du masque est de nouveau obligatoire après l'apparition d'un nouveau cluster à Melbourne. On recense deux nouveaux cas aujourd'hui. À Bruxelles, l'Union européenne a présenté mercredi un plan climat très ambitieux. Il prévoit notamment la fin des véhicules à énergie thermique pour 2035. Enfin, en France, hier, c'était la fête nationale. On ira dans les rues de Paris au moment où a été tiré le feu d'artifice. Et avant d'en venir au Victoria, un petit détour par la Nouvelle-Galles du Sud où on constate aujourd'hui une légère inflexion dans le nombre de nouveaux cas de Covid puisque 65 seulement, si j'ose dire, ont été annoncés aujourd'hui par les autorités qui s'attendent, ceci étant dit, à ce que ça remonte un petit peu demain. Gladys Bérégé-Client a annoncé hier que le confinement allait être prolongé jusqu'au 30 juillet. Aujourd'hui, elle a regretté que parmi les nouveaux cas, un nombre toujours important avait continué à se déplacer après l'apparition de symptômes, en l'occurrence pour voir leur médecin ou pour aller à l'hôpital.
Make sure you stay home and only leave the house if you absolutely have to. Regrettably, a number of people who were infectious in the community were because they went to pharmacists while they had symptoms to get medical attention, they went to GP clinics, they went to GPs.
À Melbourne, donc, deux nouveaux cas de Covid ont été détectés. Il s'agit d'un enfant âgé de 9 ans et d'un homme d'une soixantaine d'années. Ils vivent tous les deux sous le même toit et vraisemblablement, ils ont tous les deux attrapé le virus samedi dernier alors qu'ils assistaient à un match de AFL opposant Geelong à l'équipe de Carlton. Les masques dans le Victoria, en tout cas à Melbourne, sont de nouveau obligatoires dans les lieux clos. Jerome Waymar, le commandant Covid-19, a pour sa part précisé que 6500 cas contacts étaient actuellement à l'isolement à travers l'état du Victoria.
This is probably the fastest response we've ever seen to an outbreak that's moving more quickly than we've ever seen here in Victoria or I suspect anywhere else in Australia. Currently, right now we have 16 cases in total are associated with these two chains of transmission. We have over 75 exposure sites, some of them very large and complex locations.
Enfin, pour clore ce chapitre australien, un sondage qui révèle que les Australiens les plus âgés ne sont pas les plus pressés pour se faire vacciner. En tout cas, se faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca. D'après une étude menée par l'Australian Bureau of Statistics, 35% des personnes âgées de 50 à 69 ans n'ont pas encore été vaccinées, et ce malgré le fait qu'elles soient éligibles, et ce parce qu'elles souhaitent recevoir donc un autre vaccin que celui qui leur est actuellement recommandé, le seul qui leur est accessible, l'AstraZeneca. C'est également le cas de plus du quart des personnes âgées de plus de 70 ans. Rappelons au passage que pour cette dernière catégorie d'âge, elle représente plus de 90% de toutes les victimes du Covid en Australie. L'Union européenne a dévoilé hier son plan climat à Bruxelles. L'objectif, très ambitieux, réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2035. Et pour y arriver, quelques mesures choc. Il est notamment envisagé la fin, pour cette date, 2035, des véhicules diesel et des véhicules à essence. On fait le point avec Anne Verdaguet de Radio France Internationale.
C'est un paquet climat historique, peut-on entendre à Bruxelles, et ce colossal ensemble législatif qui fera encore l'objet d'âpres discussions entre eurodéputés et États membres marque en effet un tournant dans la politique européenne face au changement climatique. Première grande évolution, la fin des voitures à essence dès 2035. La plupart des constructeurs automobiles ont déjà entamé une réduction drastique de leurs émissions de CO2. La Commission propose également de taxer à partir de 2023 le kérosène pour les vols au sein de l'UE, tout en imposant aux compagnies aériennes un taux minimal de biocarburant. Mais le plus important, c'est un élargissement considérable du marché du carbone européen, où s'échangent les fameux permis à polluer. Bruxelles veut l'étendre au transport maritime, ainsi qu'au transport routier et au chauffage des bâtiments. Pour les ONG, le risque est le report de ces taxes sur le consommateur et une flambée des prix de l'essence et du fioul domestique. En contrepartie, la Commission promet que son plan sera équitable pour tous et annonce un mécanisme d'action sociale pour aider les ménages les plus modestes et contrer la précarité énergétique.
En Afghanistan, les talibans poursuivent leur avance. Ils viennent d'annoncer s'être emparés hier du principal poste frontière avec le Pakistan. Une prise stratégique et essentielle car elle leur permet de prendre le contrôle de l'entrée d'une grande partie des marchandises dans le pays. Les précisions de Yelena Tomic, RFI.
Depuis plusieurs jours, les postes frontières clés tombent un à un sous le contrôle des talibans. Après celui de Shirkan Bandar dans le nord du pays, qui contrôle la très stratégique route menant au Tadjikistan et à toute l'Asie centrale, d'un autre à la frontière avec le Turkménistan et de celui d'Islam Kala, principal point de passage avec l'Iran, il y a 4 jours, les talibans ont annoncé la prise de Spinboldak Shaman, un poste frontière majeur qui contrôle la route commerciale la plus importante entre l'Afghanistan et le Pakistan. En un peu plus de 2 mois d'une offensive tous azimuts, les insurgés ont donc réussi à se rendre maîtres des frontières du pays et des taxes douanières. Nouveau coup dur pour les forces afghanes qui, après avoir perdu les 3/4 du territoire, se retrouvent désormais sans cette importante source de financement. Malgré les démentis des autorités afghanes qui affirment avoir repoussé les attaques des insurgés, plusieurs vidéos attestent de leur présence à Spinboldak où les talibans ont hissé leur drapeau blanc de l'Émirat islamique.
Hier, c'était le jour de la fête nationale en France. Il y a quelques heures à peine, a été tiré le feu d'artifice du 14 juillet, une tradition dans la capitale Paris. Alors l'ambiance, comment c'était ? Nathanaël Vitran était sur place pour RFI, on l'écoute.
Pour vous décrire un peu ce feu auquel on a pu assister, je vais vous répéter ce que m'a dit Esther, 8 ans, ça faisait boum 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 et il y avait plein de couleurs, ambiance festive, ce soir public, nombreux, très nombreux pour assister à l'événement, des milliers de personnes massées sur les quais de Seine, sur les ponts, sur les parcs, alentours, partout en fait, où on arrivait à entrevoir un petit bout de Tour Eiffel pour être aux premières loges, pour assister aussi au concert de l'Orchestre National de France sur le Champ de Mars. La jauge était limitée à 15 000 personnes et surtout, il fallait présenter le fameux pass sanitaire. Alors la plupart des spectateurs ont joué le jeu, je me suis rendu sur place. Mais pour être allé voir, visiblement tout le monde n'était pas au courant, ça a créé une certaine confusion. Certains ont essayé de négocier, une jeune femme était même prête à se faire vacciner immédiatement sur place. Mais ça, Raphaël, malheureusement, ça n'était pas une option. Le thème de ce feu d'artifice, c'était la liberté. Certains spectateurs, ironiquement, ont ajouté « liberté surveillée ». Le contexte sanitaire indécis, les mesures annoncées cette semaine ont un peu, mais certainement pas complètement, gâché la fête.
Et les mesures annoncées cette semaine auxquelles fait référence Nathanaël Vitran, c'est notamment l'extension du pass sanitaire qui, à compter du mois prochain, sera indispensable pour aller, par exemple, au cinéma ou au restaurant. Une mesure qui a été dénoncée hier par de nombreux manifestants qui ont donc défilé dans Paris et qui voient avec cette mesure une forme d'obligation à la vaccination. Et ces manifestants, ils sont d'autant plus en colère que le texte de loi qui devrait mettre en place l'extension du pass sanitaire est actuellement examiné par le Conseil d'État. Eh bien, il a fuité dans la presse. Il prévoit notamment des peines de prison en cas de non-respect de ce pass sanitaire. Explication de Pierre Olivier pour RFI.
L'article 1er du projet de loi est on ne peut plus clair. Le fait pour l'exploitant d'un établissement de ne pas contrôler la détention du pass sanitaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, 135 euros pour le client en infraction. Une façon pour l'exécutif de calmer les velléités de certains patrons de restaurants notamment qui souhaitaient se soustraire au contrôle du précieux sésame. À partir du 1er août, il sera en effet obligatoire pour rentrer dans les cafés, restaurants, centres commerciaux, lieux de loisirs, avions ou encore les trains grandes lignes. Les employés de ces établissements devront aussi s'y soumettre et être négatifs ou vaccinés. Le projet de loi ne s'arrête pas là. Les salariés pour qui la vaccination est obligatoire, comme les pompiers et les soignants, devront être à jour avant le 15 septembre, sous peine de devoir cesser leur activité et même d'être licenciés si la situation perdure plus de 2 mois. Enfin, le texte prévoit un isolement de 10 jours pour les personnes positives avec des contrôles effectués par les forces de l'ordre directement au domicile des malades.
Et puis comme toujours, on termine ce bulletin en jetant un coup d'œil rapide à la météo de ce jeudi en Australie. 18 degrés à Perth, il pleut sur place, 17 degrés à Adélaïde, 17 degrés aussi à Melbourne, qui n'est pas à l'abri de quelques averses, 14 degrés à Hobart, 21 degrés à Sydney, 25 degrés à Brisbane et 32 degrés à Darwin où, malgré le soleil, le temps est aujourd'hui très moite. Et on vient d'écouter le morceau Yeke Yeke, ou plus exactement une reprise de ce tube du Guinéen Mori Kanté, une reprise par le Marocain DJ Youssef qui collabore sur ce morceau avec Saul Banks et Manamba Kanté, la fille du chanteur disparu l'an dernier. Allez, on passe maintenant au magazine des sports. Il est présenté par l'excellent Jean-Noël Ducasse.
Journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord le Tour de France, la 17e étape hier et c'est Tadej Pogacar qui l'emporte et conserve aussi son maillot jaune de leader comme nous l'explique Éric Chorin pour Radio France Internationale.
C'est une première pour Tadej Pogacar sur le Tour, non, pas sa victoire d'étape, le jeune Slovène en avait déjà remporté 3 l'an passé et une le contre-la-montre de Laval cette année, mais c'est la première fois qu'il en remporte une avec le maillot jaune sur le dos, et pas n'importe laquelle, puisqu'avec son final au sommet du col du Portet, cette 17e étape du Tour était considérée par beaucoup comme l'étape reine de cette édition 2021. Une victoire décrochée avec la manière qui plus est, c'est lui, Pogacar, qui a attaqué à 8 km du sommet, alors que le dernier échappé du jour, un Français bien sûr, en ce 14 juillet, Anthony Perez venait d'être repris. En 2 accélérations très sèches, il n'était plus que 3 devant, le Danois Jonas Vingegaard et l'Équatorien Richard Carapaz. S'accrochant aux roues de Poggi, Vingegaard prendra même des relais pour distancer un peu plus le Colombien Rigoberto Urán du podium. Et dans le dernier kilomètre, Carapaz tentera en vain de surprendre le jeune Danois qui le devançait d'une seconde ce matin. Mais le plus fort, quelle surprise, c'était Pogacar. Et dire qu'on remet ça ce jeudi avec le Tourmalet et la montée vers Luzardiden.
On passe au rugby, la tournée du 15 de France en Australie et la première victoire des Bleus sur le sol australien en 31 ans mardi en battant les Wallabies 28-26 au AAMI Stadium de Melbourne. On écoute d'abord la réaction de Fabien Galthié, le sélectionneur des Bleus.
Sur le match, la victoire, bien sûr, la victoire qu'on cherche depuis le début de la tournée, qu'on a réussi à obtenir, et le comportement bien sûr des joueurs et durant ce match. C'est déjà beaucoup. Ben, la défense, c'est la base, c'est la structure d'une épine, de l'épine dorsale d'une équipe. Une équipe qui défend bien, c'est une équipe qui a du cœur, c'est une équipe qui se jette sur la moindre opportunité, c'est une équipe solidaire. Bon, souvent on dit on joue comme on vit, mais on vit comme on défend. Et aujourd'hui, c'était encore un exemple.
Et maintenant, la réaction du capitaine Anthony Jelonche.
À la fin du match, il nous repasse devant et après cette dernière mêlée, comme j'ai pu le dire, quand j'ai vu le visage des mecs et ils avaient envie de renverser cette mêlée et ce soir on l'a fait et je suis très fier du groupe et désolé si on vous a mis le palpitant un peu trop haut mais ce soir je suis fier de l'équipe et on s'est bien rattrapé de mercredi dernier et voilà, je suis très content ce soir.
Et le bilan du match avec Tom Rossi pour RFI.
En terre australienne, 28-26 grâce à une pénalité de Melvin Jaminet à 2 minutes de la fin. C'était à l'occasion du deuxième test match de ce 15 de France bis en Australie. Et même sans ses titulaires habituels, cette équipe brille à l'autre bout du monde. Une fierté pour le pilier Wilfried Ungpatin qui honorait sa première sélection.
C'est juste sentiment très puissant. J'ai rarement ressenti des choses comme ça et ouais, c'est beaucoup d'émotions. Je pouvais pas rêver mieux pour une première. C'est un truc incroyable, plus de 30 ans qu'on n'avait pas gagné ici. Et cette équipe de bisu, comment on l'a appelée, au final, elle est venue et elle a rivalisé face à une grande nation du rugby. Nous sommes une grande nation du rugby et quand on croit en nous, on est capable de tout.
Et pourquoi pas remporter la série en Australie, troisième et dernier test match contre les Wallabies samedi à Brisbane.
L'entraîneur des Wallabies, Dave Rennie, prévoyant des changements au sein de l'équipe australienne. On passe à la State of Origin en Australie avec la Nouvelle-Galles du Sud contre le Queensland hier soir. Victoire des Queenslanders dans un score très serré, 20-18. On passe au foot, le ballon rond cette fois-ci avec le bilan de la performance des joueurs de Ligue 1 à l'Euro. Certains ont brillé, d'autres ont déçu, comme nous l'explique Marie-Amélie Motte pour RFI.
Petit hibou survole l'Europe. Marco Verratti a rayonné dans l'entrejeu italien pendant l'Euro, tout aussi indispensable qu'au PSG. Avec Alessandro Florenzi, latéral droit peu utilisé, Paris compte deux champions d'Europe dans son effectif. Un autre Parisien a lui aussi brillé, le milieu espagnol Pablo Sarabia, auteur de deux buts et deux passes décisives. Dans l'équipe type de la compétition, on retrouve l'avant-centre niçois Casper Dolberg, l'un des artisans de l'épopée danoise jusqu'en demi-finale. Trois buts à son actif. Et on peut citer également l'une des révélations de cet Euro, le Rennais Jérémy Doku, 19 ans, belge d'origine ghanéenne, excellent dribbleur. A l'inverse, la déception est immense pour les trois Turcs de Lille, champions de France en titre, Zeli Selic, Youssouf Yazice et surtout Burak Yilmaz, resté muet pendant l'Euro alors qu'il a inscrit 18 buts avec le LOSC cette saison. Le LOSC qui pourrait faire sa rentrée contre Metz dans un mois sans le buteur de 35 ans, il est annoncé du côté de l'AC Milan.
Le mercato avec le gardien de but italien Gianluigi Donnarumma qui est arrivé au Paris Saint-Germain. L'espagnol Sergio Ramos est arrivé au Paris Saint-Germain également. Achraf Hakimi, le marocain de l'Inter Milan, est aussi devenu un joueur du Paris Saint-Germain. Il a signé un contrat pour les 5 prochaines années. On passe au tennis avec les JO. Le Suisse Roger Federer a déclaré forfait pour Tokyo pour cause de blessure. Il continue à souffrir de son genou. Après Wimbledon, les tournois s'enchaînent à Prague, à Hambourg, à Lausanne, à Budapest, à Bastad et aux États-Unis à Newport. Ce jeudi, je vous propose ce focus sur Ons Jabeur qui a réalisé un très beau parcours à Wimbledon et la Tunisienne qui continue à contribuer à relancer le tennis dans son pays. Reportage de Mathias Reynal pour RFI.
Elle était déjà bien connue dans le petit milieu du tennis tunisien, mais ces deux dernières années, elle a conquis tout le monde, jusque dans les cafés populaires de la Médina. Entre deux compétitions de football, on diffuse ses matchs, à la télé, Ons Jabeur, et partout à Tunis, même sur l'autoroute, en 4x3 sur les panneaux publicitaires. Oussem, 27 ans, passionné de sport, est incollable sur la championne.
Elle est la première à avoir remporté des victoires. Déjà plus jeune, elle a réalisé l'exploit d'arriver en finale de Roland-Garros. Depuis, elle a continué à progresser et maintenant, elle est 24e mondiale.
Le jeune homme confirme cette tendance. La Tunisie, pays de football, s'est convertie au tennis.
Il y avait une minorité qui regarde le tennis et qui aime ce sport. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux et Internet et tout ça, les gens ont commencé à voir des vidéos de tennis, et comme l'échange qu'elle a fait en Zjeb avec Vénus, elle a fait le buzz déjà.
À Bebjdid, dans le café officiel du club africain, l'une des équipes de foot les plus populaires de Ligue 1 tunisienne, on suit de près les performances d'un jabeur comme Imed, 56 ans, fonctionnaire.
Le sportif ou la sportive de la saison numéro 1, c'est Onze Jabeur. La joie qu'elle a donnée est indescriptible.
Janvier 2020, le grand public la découvre quand elle atteint les quarts de finale de l'Open d'Australie. Onze enchaîne, se qualifie pour les huitièmes à Roland-Garros en octobre, puis en juin dernier. Et puis la joueuse remporte le tout premier tournoi WTA de sa carrière. Un bond géant pour le tennis maghrébin. Jamais une joueuse de la région n'avait obtenu pareil résultat.
Toute la Tunisie est fan d'elle. Elle met tout le monde d'accord, y compris les supporters de foot d'équipes adverses. À la maison, à l'extérieur même, on la suit sur son téléphone.
À coups de revers liftés et de passing miraculeux, Onze Jabeur contribue à abolir les barrières de genre. Cyrine, 19 ans.
On est très fiers d'avoir une sportive telle Onze Jabeur, et surtout qu'elle est une femme. Le sexisme s'exerce encore en Tunisie. On espère que les succès des sportives femmes comme Onze Jabeur va éliminer ces difficultés.
Voilà pour le journal des sports de ce jeudi.
Alors vous avez sans doute l'habitude des artistes français qui chantent en anglais pour toucher un public plus large. Et bien là, c'est le contraire. La chanteuse qu'on vient d'entendre, elle s'appelle Mackenzie Layton. Elle vient des États-Unis, elle est installée à Paris, elle est fleuriste de jour. Et comme vous pouvez le voir, elle écrit aussi des jolies chansons la nuit, comme celle-ci qui s'appelle « Un jour, la vie ». Vous êtes sur SBS, l'émission en français. Il est 13h, quasiment 30 minutes. Et on va retrouver maintenant Nicolas Perpich et Jean-Noël Ducasse qui vont faire un point complet sur l'actualité économique australienne. On s'intéresse aujourd'hui notamment au secteur du tourisme ravagé par la fermeture des frontières.
Comme chaque semaine, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Bonjour, Jean-Noël.
Le tourisme a beaucoup souffert avec la pandémie et ce n'est pas certain que ça va revenir au niveau que c'était auparavant.
Non. Et principalement, là, on parle de la Chine et vraiment, ça serait à cause des problèmes diplomatiques entre l'Australie et la Chine. Et donc là, il y a un professeur, Sam Huang, de Edith Cowan University, à Perth, qui a dit que les niveaux de voyagers chinois ne vont pas retourner à ce que c'était avant la pandémie, sauf si les relations diplomatiques entre les deux pays s'améliorent. Il a dit que le gouvernement chinois a beaucoup d'influence sur le tourisme, sur les gens qui quittent le pays pour aller ailleurs. Et donc ça, c'est pas bon signe pour l'Australie. Et c'est en fait une grande barrière pour que le secteur touristique ici rebondisse. Il dit que en plus, le problème, bien sûr, c'est que les frontières restent fermées. Mais il y a des business qui essayent de planifier maintenant, de se préparer pour quand les frontières vont rouvrir. Ça va être plus difficile puisque les tensions continuent entre les deux pays. Bon, la Chine, c'est pas le seul pays d'où viennent les touristes en Australie. Bien sûr, le Japon aussi. Russie, mais aussi l'Inde. Le problème là, c'est que bon, le Japon là, ils ont pas mal de problèmes avec Covid. L'Inde aussi, on a eu des effets terribles avec le Covid. Et quand on voit un peu où vont les Australiens, bon, par exemple l'Indonésie, là c'est des ravages avec la pandémie aussi. C'est compliqué, mais c'est sûr que la Chine, c'est le plus grand problème parce que c'était le numéro un, le pays d'où venait le plus grand nombre de touristes en Australie. Donc en 2019, selon Tourism Australia, il y avait 758 000 Chinois qui sont venus en Australie, et ça faisait presque, bon, plus que la moitié de 1,4 million de tous les touristes qui sont venus pour des courtes périodes pendant cette année 2019. Donc les touristes chinois, ils ont dépensé 3,3 milliards de dollars en Australie cette année-là. Donc c'est vraiment énorme, c'est vraiment très très important. L'autre problème, c'est que quand les tensions entre les deux pays ont vraiment commencé à se faire sentir l'année dernière, ben les autorités chinoises, le gouvernement chinois a changé ses conseils de voyage pour les citoyens chinois. Le ministre des Affaires étrangères avait dit que il fallait faire très attention en Australie, il y avait des questions de sécurité, il y avait des risques, donc peut-être repenser vos décisions de voyager en Australie. Il y avait un peu le même message pour les étudiants chinois aussi, et donc tant qu'il y a des messages comme ça, ça va être difficile pour le tourisme australien.
La bonne nouvelle, le désir d'éliminer les plastiques et utiliser les produits recyclables.
Oui, donc ça va changer notre économie. Déjà, ça change pas mal. Donc, le gouvernement fédéral et des États autour de l'Australie essayent d'éliminer les choses comme les sacs en plastique, les pailles en plastique, les couteaux, et les fourchettes en plastique, mais aussi des produits comme la polystyrène, parce que bon, ça c'est très léger et c'est utilisé souvent pour empaqueter les choses, les frigidaires, les machines à laver, des milliers de choses, parce que bon, ça protège et en plus ça empêche un peu le chaud et le froid de rentrer, donc ça marche très très bien. Mais si on regarde en gros, les Australiens utilisent 3,4 millions de tonnes de plastique chaque année, selon le département de l'environnement. Et de tout ça, 320 000 tonnes sont recyclées. Mais le reste, ça finit dans des décharges. Donc, c'est enterré. Et ça peut prendre des centaines d'années pour être éliminé. Donc, c'est vraiment un grand problème. Et à polystyrène, l'Australie fait venir 52 000 tonnes de polystyrène, du résine pour faire le polystyrène chaque année. C'est très bien pour l'insulation. À peu près un quart de tout ça est recyclé, mais encore une fois, le reste a fini dans des charges. Donc, les business, ils commencent à chercher de voir comment ils peuvent utiliser autre chose, qu'est-ce qu'ils pourraient utiliser. Et Officeworks, par exemple, ils ont commencé à utiliser du papier tissu et aussi du cardboard. Ils disent que ça marche pas mal, ça protège bien le produit, mais bon, le prix est à peu près le même, donc ils disent que pour eux c'est une assez bonne solution. Mais il y a d'autres compagnies qui disent que bon, ça ne marche pas tellement bien pour eux, parce que ça ne garde pas les produits chauds ou froids comme peut faire la polystyrène. Donc ils cherchent d'autres choses. Et une solution qui a été trouvée, c'est de la laine. Mais la laine qui n'est pas utilisée, donc les bouts de laine, les restes de laine. Et ils disent qu'apparemment, ça peut marcher aussi bien que la polystyrène, mais sans prendre des centaines d'années pour être éliminé dans les décharges. Et ça n'a pas besoin d'être recyclé, puisque c'est un produit naturel. Donc, c'est intéressant comment on voit, comment on s'adapte, même avec un produit comme polystyrène qu'on utilise depuis 1954. Mais s'il faut s'adapter, on dirait qu'on peut le faire.
Merci pour cette analyse, Nicolas. À la semaine prochaine.
Un grand plaisir. À la semaine prochaine.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau spot publicitaire que vous avez peut-être vu ces derniers jours à la télévision. Ce spot, c'est celui du gouvernement australien qui vise à faire de la prévention par rapport au coronavirus. Alors ce spot, il a choqué beaucoup de monde. Il a aussi été très critiqué. Et nous, aujourd'hui, eh bien, on va le décrypter avec deux experts de la communication. Il y a d'abord avec nous Amaury Tréguer de l'agence Red Ava. C'est un spécialiste de la communication visuelle. Et puis, on a aussi avec nous un habitué de notre antenne, Nathanaël Bloch, qui, lui, est plus calé sur ce qui relève de la communication politique. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Grégory.
Bonjour Grégory, bonjour Amaury.
Alors ce spot, je vais le décrire rapidement pour les auditeurs qui ne l'auraient pas encore vu. En gros, c'est un gros plan sur une jeune femme qui est allongée dans un lit d'hôpital. Elle est raccordée à un respirateur et elle est quasiment en train d'asphyxier. Par ailleurs, elle regarde fixement la caméra d'un air très angoissé. Le message, c'est respectez les gestes barrières, restez chez vous et faites-vous vacciner. Et le moins qu'on puisse dire, eh bien, c'est que ce message, il a été très mal reçu à la fois par le public, mais aussi par la classe politique, y compris d'ailleurs dans le rang de la majorité du gouvernement. Je me tourne d'abord vers vous, Amaury Tréguer. Pourquoi, d'après vous, ce spot publicitaire a reçu un si mauvais accueil ?
Écoutez, je pense que la première chose... c'est que forcément ce genre de publicité ont pour but d'aider à favoriser les gens à aller se faire vacciner. En revanche, la scare tactic, utiliser la peur n'est pas forcément quelque chose qui incite à l'action. C'est d'ailleurs pour ça que les campagnes anti-tabac ou les campagnes de la route utilisent généralement ce genre de messages et ce genre de façon de faire. La peur, donc je pense que déjà, ça n'a pas un côté positif, inciter les gens à prendre action. Et puis ensuite, surtout quand on connaît la situation actuelle en Australie où on ne peut pas forcément se faire vacciner si facilement et qu'on utilise une jeune femme qui a sûrement moins de 40 ans, donc qui n'est clairement pas dans les priorités et que nous n'avons pas suffisamment de vaccins, je pense qu'il y a un côté satirique aussi à cet aspect aussi.
Nathanaël, je me tourne maintenant vers vous. Ce spot publicitaire, on l'a compris, il joue à fond la carte de la peur. Comme on a pu le voir par le passé, dans certaines campagnes de prévention routière ou par exemple des campagnes de lutte contre le tabagisme, la peur, Nathanaël, ça peut être un moyen efficace en politique de faire passer un message ou de convaincre un auditoire. Mais est-ce que ça l'est systématiquement ?
Alors, sur cette question, en fait, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Amaury, c'est-à-dire que normalement, en communication, la peur, elle est réservée dans les campagnes de santé publique pour appeler à ne pas faire quelque chose, pour appeler à éviter d'avoir des comportements soit dangereux, soit nocifs. Donc déjà, en fait, c'est en termes d'absorption du message de santé publique, quelque chose qui est un peu à contre-courant de tout ce qui se fait d'habitude. Après, d'un point de vue juste politique, le vrai problème, je pense, de ce clip, c'est que c'est pas comme si on avait une campagne par rapport à la logistique du vaccin en Australie qui était parfaite et puis qu'on a un clip qui est un petit peu dérangeant. C'est-à-dire que cet outil de communication, il est absorbé dans une campagne vaccinale qui est déjà super critiquée en Australie. Donc en fait, au lieu de bénéficier d'une aura positive en termes de réception, ce clip vient s'ajouter aux autres ratages qui sont perçus par l'opinion publique en termes de campagne de vaccination. Et c'est là où c'est un petit peu délicat de la part, moi je pense, du gouvernement australien. C'est qu'au lieu d'avoir fait quelque chose de finalement très factuel, très carré, qui aurait pu permettre de donner un petit peu de contenu aux Australiens sur les raisons pour lesquelles il faut se faire vacciner, d'avoir des chiffres, d'avoir une argumentation un peu étayée, on les laisse encore une fois un peu dans le flou et on leur donne finalement un clip hyper court de 30 secondes. Hein. On parlait de comparatif aussi, hein, si vous regardez les clips français et néo-zélandais, ils font deux fois la taille de ce clip australien. Donc on leur laisse en fait presque interpréter et jouer avec ce clip. Donc moi j'allais dire ça s'inscrit plutôt dans la série de mauvaises habitudes en termes de communication du gouvernement australien sur la campagne de vaccination.
Alors vous venez de mentionner la campagne publicitaire d'incitation à la vaccination qui est actuellement diffusée en France et effectivement en termes de contenu c'est l'exact opposé. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, on y voit toute une série de personnes se faire vacciner et à chaque nouvelle vaccination on voit des magasins qui rouvrent, des salles de concert aussi qui rouvrent leurs portes au public, des amphis d'université où on rallume la lumière. Bref, l'idée derrière cette campagne c'est de montrer les conséquences positives que peuvent avoir la vaccination. Pourquoi, d'après vous, ce type de message est plus efficace?
Moi, il y a trois choses, en fait. Si on prend les clips français et australiens, et en termes de messages de communication, il y a trois choses que je trouve intéressantes. C'est à la fois sur le message, sur le ton et sur le contexte. Sur le message, la France, le clip français, il joue vraiment sur « c'est la vie qui reprend ». Allez vous faire vacciner parce que ça va vous permettre de retrouver une vie normale, de café qui ouvre, d'opéra, de concert, de vie en collectivité. Alors que le message australien, j'allais dire, il n'est même pas tellement sur l'après-vaccination, il est déjà sur le fait de, sur le confinement. À la fin, le message, c'est « stay home, get tested » et seulement après « get vaccinated ». C'est-à-dire qu'on a en fait les deux tiers du message qui ne sont même pas directement liés à la campagne de vaccination. Donc, il y a aussi quelque chose qui est un petit peu ambivalent, c'est qu'il y a une inadéquation entre le message lui-même et le dispositif dans lequel il s'insère, qui est la campagne de vaccination. Ensuite, sur le ton, hein, pas besoin de revenir dessus, hein, en France, on a quelque chose qui est très positif, qui est très joyeux, qui est le recouvrement d'un temps passé qu'on a tous envie de revoir, alors que ici, ce clip australien, il est évidemment super anxiogène. Et je rejoins encore une fois ce qu'avait dit Amaury précédemment sur le côté faire peur et pourquoi c'est pas inefficace dans ce genre de campagne publique. Et puis peut-être un dernier élément qui est celui du contexte. En France, mais c'est aussi le cas dans le clip néo-zélandais, on a véritablement une campagne qui est collective. C'est-à-dire que sur les images, on voit des gens, on voit des groupes de personnes, on voit des moments de vie qui reprennent. Sur le clip australien, on voit seulement la souffrance d'une seule personne. Et donc ça, c'est aussi intéressant parce que ça veut vraiment dire que il n'est pas reçu de la même personne, de la même façon, ce message. En France, en Nouvelle-Zélande, on va se faire vacciner pour reprendre un petit peu ce qu'on a perdu avant, c'est-à-dire une vie collective, une vie avec l'autre, une vie en communauté. En Australie, s'il faut se faire vacciner, bah, c'est pour pas finir comme cette pauvre dame, qu'on n'arrive pas d'ailleurs très bien à identifier, qui est en train d'asphyxier sur un lit d'hôpital. Vous voyez, en termes de message, de ton et de contexte, on a vraiment des différences très importantes entre les campagnes françaises et australiennes.
Amaury, une dernière question pour vous. Ce spot publicitaire australien, il arrive très tard, plusieurs semaines, voire plusieurs mois après des campagnes similaires lancées dans d'autres pays. C'est sans doute dû au fait que la campagne vaccinale elle-même prend beaucoup de retard. Presque partout, le ton adopté, c'est le même que celui qu'on peut voir dans la campagne de communication française, c'est-à-dire un ton résolument positif et vraiment tourné vers l'après-Covid. Dès lors, comment se fait-il que le gouvernement australien, dont sa propre communication, se soit à ce point planté?
Si j'ai bien compris, déjà, ce clip a été tourné l'année dernière. Donc, ils ont peut-être été lents à le mettre en télé et sur les réseaux sociaux, mais apparemment ce clip aurait été filmé l'année dernière pendant le lockdown, pendant le confinement, donc ce qui explique potentiellement le problème en termes de tonalité, en termes d'ambition. Donc ça c'est la première chose. C'est sûr qu'aujourd'hui on a été peut-être les premiers à sortir du confinement, on a été chanceux à l'époque.
Mais forcément, c'est une campagne qui, quand on voit le deuxième confinement, c'est sûr qu'on se dit qu'on a été potentiellement les premiers à sortir du confinement en premier. Et aujourd'hui, on se retrouve à être confinés alors que les autres pays rouvrent tout. En revanche, je pense que c'est très difficile de comprendre pourquoi on arrive à ce genre de spot, alors que tous les autres spots, comme dit Nathanaël, d'un point de vue en Nouvelle-Zélande ou en France, sont bien plus du côté positif, utopique, de faisons-nous vacciner pour pouvoir retrouver notre vie normale avant confinement. C'est la façon de faire pour pouvoir pousser les gens à se faire vacciner et pas ce que les Australiens ont fait avec cette campagne choc, qui finalement voit directement le côté négatif de la chose et les messages sont complètement confus aussi. Comme disait Nathanaël, on ne sait pas vraiment quoi faire après avoir vu ce spot.
Bon, eh bien, merci tous les deux pour ce décryptage. Amaury Treyer, Nathanaël Bloch, un grand merci à vous et j'espère à bientôt.
Merci Grégory, merci Nathanaël.
Merci Grégory, merci Amaury, à très bientôt.
À bientôt.
Dans des bras, d'où les cavines bonnet. Dans des bras, au panier douleur, liberté, c'est force l'amour, divini moi et en l'homme et moi.
SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte avec ce morceau de Valérie Loury qui s'intitule « Dans des bras ». Nous, on se retrouve samedi à 13h pour une nouvelle émission en direct. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée. Vous pouvez aussi, je vous le rappelle, écouter toutes nos interviews et nos reportages en podcast. Vous nous trouverez en tapant SBS French sur toutes les plateformes de streaming audio. Enfin, je remercie également Guy, l'ingénieur du son qui m'a accompagné aujourd'hui au cours de cette émission et grâce à qui elle s'est déroulée sans accroc. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.